Il y a une césure dans la spécialisation des juristes depuis 2-3 ans sur la question du licenciement à l'occasion de phénomènes économiques et du licenciement pour des raisons discriminatoires. Et le plafonnement des indemnités prud'homales que l'on connaît actuellement n'est pas valable en matière de discrimination.
Tout à fait.
C'est-à-dire que l'on peut exploiter convenablement suivant les règles du marché, mais il y a une surexploitation qui est la discrimination qu'on n'a pas le droit d'enfreindre, et là, l'indemnisation est libre et non pas plafonnée.
Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ici un point de convergence avec les États-Unis.
Hein, elle part au pénal ?
Mais non, au
non, civil. Non, au civil. Non, c'est un point très important.
Et les compagnies d'assurance n'assurent pas la discrimination alors qu'elles assurent le licenciement.
Alors, Alors deux choses là-dessus. Enfin, moi, je vous prédis la montée des procédures prud'homales qui font appel à la discrimination, tout simplement pour faire sauter ce plafond. Donc là, vous avez typiquement quelque chose, un point juridique. On plafonne les indemnités prud'homales, hein. Vous savez, c'est Macron, il s'y est pris à 3 fois pour le faire, mais il a réussi à le faire. Et donc, ça veut dire que on peut être licencié pour cause non réelle et sérieuse, mais les indemnités sont plafonnées en fonction de l'ancienneté du salarié. On ne peut pas obtenir n'importe quoi. Les juges sont tenus de suivre un barème, et ce barème, il est écrété, il y a un plafond au bout d'un moment.
Il y a un plafond, oui.
Mais si jamais... dans les raisons pour lesquelles vous êtes licencié, il y a de la discrimination ou du harcèlement, d'ailleurs, c'est l'autre point, c'est l'autre, eh bien le plafond saute. Et donc le juge peut fixer une indemnité beaucoup plus élevée, parce que le plafond il est assez bas. Là on a un point de convergence, un point de droit tout bête, qui fait que dans les années futures, je pense que cette question de la discrimination, elle va monter devant les prud'hommes et les tribunaux. Juste par une petite règle juridique, en fait. Mais moi, je vous prédis que de plus en plus de gens, pour régler un problème de travail, vont se demander s'il n'y a pas de la discrimination derrière. Qu'il y en ait eu vraiment ou pas. Parce que c'est très compliqué à prouver la discrimination. Mais en tout cas, ils vont faire appel d'un motif discriminatoire lorsqu'ils vont aller au prud'homme. Je ne sais pas ce que feront les juges, parce que les juges sont très embêtés sur ces histoires de discrimination, parce qu'ils ont beaucoup de mal à trancher. Parce que souvent, c'est parole contre parole. En fait, parce qu'il faut des preuves, en fait, il faut des signes qui attestent qu'il y a de la discrimination, etc. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je suis sûr qu'on va de plus en plus faire appel à la discrimination dans les conflits du travail.
Il peut y avoir une évolution du concept d'intersectionnalité.
Alors, pour l'instant, les études qui sont faites montrent que ça ne marche pas du tout devant les juges. Et par exemple, les discriminations, il y a aussi une forme de hiérarchie dans ce qui marche devant les juges ou pas. La discrimination qui marche bien, pas à tous les coups du tout, hein, ça dépend des dossiers, etc., mais dans lequel les juges acceptent assez facilement de la reconnaître, c'est la discrimination syndicale. Parce que c'est la plus ancienne, et parce qu'elle a été équipée par des syndicalistes qui ont fait des dossiers costauds, et puis qu'il y a une méthode qui s'est développée, la méthode claire, etc. Après, il y a la discrimination sexuelle, la discrimination envers les femmes, où là, on reconnaît aussi que quand vous revenez de congé maternité et que vous êtes rétrogradé, etc., c'est la discrimination. Donc envers les femmes, ça marche moins bien que la discrimination syndicale, mais ça marche. La discrimination ethnique ou raciale, c'est ce qui marche le moins. Et donc, quand on a une femme noire syndiquée, d'accord, ce que font les avocats, c'est qu'ils disent, on va d'abord plaider la discrimination syndicale, et éventuellement la discrimination envers la femme. Mais la discrimination raciale, on va pas y aller parce que ça va pas marcher. Les juges ont du mal à être réceptifs pour prouver ce genre de choses. Je vous parle de choses, là, d'études qui sont en cours aujourd'hui sur les prud'hommes et sur ces questions de discrimination et qui, en travaillant auprès d'avocats en particulier, montrent ces formes de cadrage des dossiers. Donc là, on a un point de convergence future entre vraiment la France et les États-Unis, il me semble, parce que aux États-Unis, encore une fois, cette question de la discrimination est vraiment centrale dans, en fait, le droit de l'emploi plus que le droit du travail. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ces deux branches... Le employment law, c'est distingué du labor rights. Ce qu'on appelle employment, c'est sur le contrat de travail individuel, en fait, Donc c'est en particulier dans toutes ces entreprises non syndiquées, où on a juste de gré à gré entre un employeur et un salarié, un contrat de travail. Alors que dans toutes les entreprises syndiquées, il y a une convention collective. Je vous ai dit tout à l'heure. Dès qu'il y a un syndicat, il y a obligation de signer un accord. Et du coup, là, ça rentre plutôt dans le domaine de la labor law. Et du coup, d'un droit dans lequel ce qui compte, c'est le respect des procédures entre les syndicalistes et les employeurs pour établir ce contrat collectif. Et du coup, on a vraiment deux branches juridiques qui sont assez distinctes entre le employment law et le labor law. Et dans le employment law, ce qui domine complètement les conflits, c'est la question de la discrimination. Dans le domaine du labor law, ce qui domine, c'est plutôt les relations entre les syndicats et l'employeur. Est-ce que l'employeur a été loyal? Est-ce qu'il a employé des moyens illégaux pour forcer les syndicalistes à faire un accord, etc. C'est pas tout à fait les mêmes questions de droit qui sont posées. Alors, pour terminer cette première partie, je vous parle un tout petit peu de l'enquête que j'ai menée, puisque du coup, moi, je me suis intéressé à la question de l'inspection, à la question du contrôle du droit, en fait, à l'application du droit en France et en Californie, puisque je me suis intéressé notamment, j'ai fini une grosse enquête sur la question de la santé au travail, et en particulier comment elle est appliquée, et quels acteurs contribuent à l'appliquer en France et en Californie. Donc en Californie, il y a ce qu'on appelle... c'est vraiment trop long mes planches, je suis désolé. On a une inspection du travail spécialisée qui s'appelle l'OSHA, qui sont des inspecteurs du travail spécialisés sur la santé au travail. Alors qu'en France, l'inspection du travail, elle est généraliste. Elle s'intéresse à tout le code du travail. Donc le salaire, le temps de travail, la santé au travail, mais les relations collectives de travail, etc. Aux États-Unis, on a une inspection du travail spécialisée. J'ai découvert qu'il y avait une inspection spécialisée sur le temps de travail, par exemple. Mais celle qui est la plus forte, la plus importante, c'est celle qui est spécialisée sur la santé au travail. Hein, et là, c'est une inspection du travail qui est organisée au niveau de l'État. Donc c'est ce qu'on appelle Cal OSHA, California OSHA. Et donc j'ai mené une enquête auprès de ces inspecteurs du travail, dans lequel j'ai essayé de comprendre comment était surveillée, contrôlée, vérifiée l'application de la réglementation en matière de santé au travail en Californie et en France. Et donc là, trois principaux résultats que je voulais évoquer. D'abord, c'est que j'ai été frappé par la multitude d'acteurs qui s'occupent de ces questions de santé au travail. En Californie, on a l'OSHA, dont je viens de parler, hein, ce sont des inspecteurs du travail, mais il y a aussi tout un tas de structures. Il y a le California Department of Public Health, le CDPH, donc qui est l'équivalent un peu de la branche du ministère de la Santé au niveau de la Californie, mais qui a toute une branche sur la santé au travail, hein, ce qui est beaucoup plus développée en fait qu'en France là-dessus, avec beaucoup d'actions, des recherches qui sont menées sur est-ce qu'il y a des produits toxiques, est-ce qu'il y a des effets sur la santé au travail de la manipulation de tel ou tel produit, de telle ou telle organisation du travail, le stress. Donc il y a vraiment une politique de santé publique sur le domaine du travail qui est beaucoup plus développée en fait en Californie qu'en France. Et puis, il y a aussi plein de structures associatives supportées par des syndicats, par des centres de recherche. Hein. La fac de Berkeley, par exemple, finance une partie de ces structures associatives qui font beaucoup d'actions en matière de santé au travail. Donc, j'étais frappé par la multitude d'acteurs, ce qui ressemble un peu à la France, où il y a plein d'acteurs différents aussi. Mais c'est même encore presque plus important en Californie qu'en France, ce qui était assez contre-intuitif avec mon idée de départ. Deuxième résultat, c'est qu'il y a tout un tas de risques qui sont assez bien identifiés, dans lequel il y a des plans d'action, des mesures, des règles assez claires. Dans le domaine des pesticides, en particulier en Californie, qui est un problème depuis les années 70 très important au niveau public. Il y a eu des syndicats très importants qui ont fait de la lutte contre les pesticides un enjeu très très important, hein, notamment parce qu'on a beaucoup d'immigration mexicaine ou sud-américaine qui travaillent dans les champs, qui sont exposés à des pesticides, puisque les Américains, ils rigolent pas, hein, vous savez, quand ils utilisent des trucs, c'est le DDT, les trucs qu'ils balançaient sur les Vietnamiens, là, c'est aussi ça qu'on balance dans les champs, etc., pour développer cette agriculture intensive. Hein. Je vous rappelle qu'un tiers de toute la production agricole des États-Unis, ça vient de Californie.
C'est les Canadiens.
Donc, ils y vont, c'est pas la petite lancette. Et du coup, il y a eu des problèmes de santé très importants identifiés dans les années 70, qui ont généré des luttes syndicales très très importantes, et du coup tout un système de surveillance lorsqu'il y a un salarié qui vomit, est malade, et qu'il est travailleur agricole, même s'il est undocumented, immigrant illégal, etc., il y a des modalités de prise en charge qui permettent d'identifier des cas. Donc il y a vraiment des risques. Le plomb aussi, on m'a raconté toute une histoire sur la manière dont on a pris en compte cette question du plomb, dans les peintures notamment. Donc il y a évidemment d'autres risques professionnels qui sont beaucoup plus laissés à l'abandon. Et de ce point de vue-là, la différence entre la France et la Californie, c'était cette question des risques psychosociaux. On est en plein procès France Télécom, qui est quand même un truc très très important en France. C'est un procès pénal. Même sur l'amiante, il n'y a pas eu de procès pénal. Donc là, on est et qui porte directement sur cette question des risques psychosociaux. Là, on va condamner très probablement un certain nombre de dirigeants d'entreprise pour avoir monté un plan visant à harceler structurellement des salariés pour les faire partir. Donc ça, du côté de la Californie, les risques psychosociaux, le stress, tout ça. Psychosocial risk, en entretien, puis après on leur demandait un peu s'ils avaient des mesures plus précises, comment ça se passait. Et là, la question c'était, mais vous entendez quoi exactement par psychosocial risk ? Et donc finalement, sur le stress, il y a un peu des choses, sur les risques d'agression ou d'angoisse liée aux armes. Parce qu'on est aux États-Unis, alors c'est pas le cas, c'est moins le cas en Californie, même si, parce que en Californie, les armes c'est réglementé. C'est pas comme dans tout un tas d'États dans lequel vous voulez acheter une arme. Pas de problème. En Californie, il y a des permis, il y a des choses quand même un peu réglementées. Mais il y a quand même des fusillades assez régulièrement, à San Bernardino, pendant que j'y étais l'année dernière, avec plusieurs morts. Et donc, du coup, ces risques d'agression, les travailleurs, ils peuvent y être exposés, lorsqu'ils sont dans les services publics, dans les écoles, vous avez entendu des shootings, etc. Donc, il y a des mesures qui commencent à être prises un peu, mais vous voyez que c'est très spécifique, et pour le coup, ça, on ne connaît pas ça en France. Mais voilà, en tout cas, il y a des réglementations qui se mettent en place, les risques d'agression, dans le domaine notamment sanitaire et social ou éducatif. Et puis, il y a des choses dans lesquelles ça marche pas du tout. Je parlais des nanomatériaux, parce que j'ai aussi un peu travaillé là-dessus, qui sont des risques un peu émergents, dans lesquels, finalement, la France est beaucoup plus en pointe que les États-Unis ou même la Californie là-dessus, sur les risques potentiels liés à l'exposition à des nanomatériaux qui sont, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des tout, tout petits objets, de taille nanométrique. Donc nanométrique, c'est 10 puissance moins 9, c'est un millième de cheveux. Donc c'est totalement invisible. Et c'est des petites choses qui commencent à se répandre assez fortement dans tout un tas de produits de consommation courante et qui concernent évidemment des travailleurs qui produisent ces nanomatériaux et les incorporent à tout un tas de produits, et qui, certains d'entre eux, ont très probablement des effets cancérigènes similaires à l'amiante. Ça craint un peu, parce que l'amiante, ça provoque des cancers mortels. Donc voilà, on ne sait pas très bien si ça va aller jusque-là, mais il y a des suspicions assez fortes. Donc la France est plutôt en pointe là-dessus, pour essayer de gérer ses risques professionnels, alors que ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et puis, dernier point, c'est une espèce de division du travail entre des actions de sensibilisation, d'information, par ces structures associatives, par la recherche, par le CDPH aussi, etc., pour sensibiliser les travailleurs et les militants syndicaux, en particulier au risque en matière de professionnel, en disant « si, il y a du droit, vous pouvez utiliser du droit ». Donc, il y a vraiment un truc assez, assez fort, en particulier en Californie. Je pense que tous les acteurs m'ont dit que c'était très spécifique à la Californie, que ça n'existait pas dans les États du centre américain. Donc une action de sensibilisation assez forte. Et puis l'enforcement, c'est-à-dire la mise en application du droit avec ces inspecteurs. Et donc ces inspecteurs du travail qui... Alors là, l'idée, c'était de comparer un peu deux inspections limites. Donc l'OSHA qui est chargé de mettre en place la réglementation en matière de santé au travail, et puis une enquête que je fais sur la mairie de Paris, où comparer la mairie de Paris et la Californie, ça a un peu aucun sens, sauf qu'en fait, à la mairie de Paris, qui est quand même une grosse organisation, mais enfin, il y a une inspection du travail qui est là aussi spécialisée uniquement sur la santé du travail. Puisque je vous ai dit, les inspecteurs du travail en France, ils s'occupent que du privé. Et donc les fonctionnaires, ils ne sont pas contrôlés par les inspecteurs du travail. Donc, moi, je me suis posé des questions toutes bêtes, du genre, mais qui contrôle l'application des règles, notamment de santé au travail, pour les fonctionnaires? Parce qu'ils sont soumis aux mêmes règles. En matière de santé et sécurité, il y a les mêmes obligations, de ne pas détruire la santé des travailleurs, etc. Eh bien, il y a une inspection spécialisée qui s'occupe que de ces questions-là, dans la fonction publique territoriale, et notamment à la mairie de Paris. Et du coup, j'ai pu comparer, en quelque sorte, deux types de fonctionnaires, de l'OCHA d'un côté et de la mairie de Paris, chargés de contrôler la réglementation en matière de santé et sécurité au travail. Si je continue sur ma comparaison, dans les deux cas, on a des inspections qui sont plutôt de petite taille, spécialisées sur la santé et sécurité, qui sont des règles de droit très dures. Hein, c'est du droit impératif. On plaisante pas, quoi, normalement. On peut pas. Voilà, c'est une réglementation qui est assez abondante en Californie. Et du coup, on a, dans les deux cas, des visites pour contrôler l'application de ces règles sur les lieux de travail, avec des parallèles assez intéressants, parce que dans les deux cas, on a une très grande autorité de ces inspecteurs du travail. Les inspecteurs de l'OSHA, quand ils viennent dans une entreprise en Californie, on rigole pas derrière, parce qu'ils ont une autorité très forte, liée aussi, dans les deux cas, à un appui sur le droit qui est vraiment très important. Aussi bien à la mairie de Paris qu'en Californie, en matière de santé et sécurité, lorsqu'il y a une visite, les inspecteurs rappellent systématiquement les règles de droit et exercent une forme de rappel à la loi très fort. Alors avec des différences quand même, dans le sens où en Californie, ils ont des moyens de pénaliser les chefs d'entreprise très fort, avec notamment des pénalités financières. Hein, donc dès qu'on outrepasse une règle, choc, c'est tant de centaines de dollars. Et donc très rapidement, ça chiffre beaucoup. Alors que dans l'inspection de la fonction publique en France, il n'y a pas de possibilité de pénaliser. Hein, les inspecteurs font juste des propositions à la direction. Mais il y a tout un tas de dispositifs qui font que ces propositions sont suivies. Donc voilà, alors pour avancer un petit peu, il y a l'idée que même si on a deux services, deux types d'acteurs très très différents, hein, c'est pas le même poids la Californie et la mairie de Paris, bah, on a deux inspections spécialisées qui réussissent à être assez efficaces dans ce domaine, avec une limite très forte, c'est qu'elles sont de très petite taille, donc elles font pas énormément d'inspections. Hein, la mairie de Paris, il y en a une cinquantaine par an. Donc quand vous savez qu'il y a 8000 lieux de travail à la mairie de Paris, que la mairie de Paris, c'est 50 000 agents, ben, finalement, 50 inspections, ils vont pas... Alors, sauf que ça rayonne quand même, parce que toutes les directions savent que ben, sur les poussières de bois, cette année, les inspecteurs, ils font des plans d'action. Et donc toutes les menuiseries dans lesquelles... Toutes les espaces de travail à la mairie de Paris dans lesquels il y a de la poussière de bois, ben, savent que... voilà, il y a des inspecteurs possibles qui vont venir et il faut faire attention. Donc ça rayonne au-delà du cas lui-même. En Californie, de la même façon, on va cibler les entreprises où il y a le plus de risques en fonction de scores qu'on va construire selon le taux d'accident des années précédentes, selon ce que la littérature nous dit des risques d'accident ou de maladie dans tel ou tel secteur. Hein, vous avez des secteurs évidemment où il y a beaucoup plus de risques professionnels que d'autres. Et du coup, on cible les entreprises dans lesquelles il y a le plus de potentiellement de risques pour faire des inspections. Du coup, il y a vraiment une réflexion aussi sur la manière d'être efficace dans ces deux inspections. Voilà, donc je voulais juste évoquer ces points-là pour dire que le premier acteur qui utilise le droit, c'est quand même l'État, hein, à travers ses inspecteurs, à travers le droit qu'il produit, et que finalement, les différences entre la Californie et la France, ici, je les relativise plutôt que j'insiste sur les divergences entre ces manières dont l'État mobilise le droit pour faire appliquer le droit. Alors, je reviendrai en conclusion sur des évolutions récentes en France et en Californie, aux États-Unis, qui font que ça... Voilà, ça va pas forcément toujours dans le bon sens, mais en tout cas, quand on regarde les pratiques des inspecteurs au quotidien, moi, j'ai été frappé par une forme d'efficacité dans ces deux registres, dans ces deux domaines, qui va un peu à l'encontre aussi d'une tout fout pas le camp, quoi. Voilà, dans le domaine de, notamment dans le domaine de la santé, sécurité au travail, alors qui est un domaine particulier parce que il met en jeu les corps, la vie, la santé ou la mort finalement aussi des travailleurs. Hein. Donc, on est sur des enjeux très très importants dans le domaine du travail. C'est pas le salaire. C'est pas le temps de travail, etc.
Et puis les individus se sont directement interpellés.
Voilà, il y a un enjeu moral très important autour de la santé au travail, ce qui explique sans doute pourquoi c'est des choses dans lesquelles il y a encore un poids de l'État important. Alors, deuxième partie, voilà, après le rôle de l'État, essayer de voir un peu le rôle des syndicats, des salariés, et comment, dans les luttes sociales, en France et en Californie, ils utilisent le droit ou pas. Donc, je voulais évoquer un petit peu cet ouvrage, « Whites at Work », hein, donc le sous-titre, c'est « Pay Equity Reform and Politics of Legal Mobilization », et qui s'intéresse à ces luttes dans les années 70-80 pour l'égalité salariale. Donc, c'est surtout des femmes, évidemment, qui se sont mobilisées lorsqu'elles se rendent compte qu'elles sont payées, hein, comme c'est toujours le cas en France, à peu près 20% de moins, toutes choses égales par ailleurs. J'exagère un peu. Quand on fait toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu moins que 20%, c'est plutôt 10% que les hommes. Mais en tout cas, les femmes se rendent compte qu'elles sont beaucoup moins bien payées que les hommes, sans autre justification qu'elles sont des femmes. Parce qu'en fait, elles font le même travail. Alors, un des problèmes, c'est qu'elles font rarement le même travail exactement. Mais le travail des femmes est souvent moins valorisé, moins rémunéré, et il n'y a pas forcément de raison qu'il le soit. Donc il y a des luttes, et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que l'auteur va beaucoup s'intéresser à la manière dont ces activistes féministes ont saisi les tribunaux pour faire avancer le droit, hein, aussi parce qu'on est aux États-Unis. Alors, les luttes sur lesquelles ils travaillent, c'est aussi des grèves, des manifestations, hein, la couverture, vous voyez que c'est une manifestation, en fait. Mais ça passe aussi par les tribunaux. Ça s'appuie sur des avocats spécialisés, des avocats qui soutiennent ces mouvements politiques, ces mouvements sociaux. Et ce qui montre, c'est quand même que dans les années 70, il y a des victoires judiciaires qui sont obtenues. On condamne des employeurs à rémunérer de manière égale les hommes et les femmes. Alors, l'ouvrage porte aussi sur les années 80, les années Reagan, où ces victoires judiciaires, elles s'enrayent. C'est-à-dire que Reagan nomme de plus en plus de juges conservateurs qui vont ne plus systématiquement ou moins systématiquement prendre des décisions favorables vis-à-vis des femmes. Et ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est toute la réflexion sur les effets du droit, hein, les effets qu'a ce recours au judiciaire dans le combat pour l'égalité homme-femme. Et donc j'ai résumé un peu les termes qu'emploie le McCann, qui dit d'abord c'est club, c'est une matraque d'abord le droit. Hein, le recours au tribunal, ici, c'est une matraque qu'on va utiliser pour frapper ou faire peur à l'employeur. Et puis, ça marche dans un premier temps, mais pas toujours après, parce que lorsqu'il s'agit d'étudier la mise en œuvre des décisions judiciaires, il y a un écart aussi. Hein, c'est pas parce qu'on a un juge qui vous dit « vous avez raison » que derrière, les salaires ont effectivement été augmentés. Et parfois, il a fallu retourner au tribunal pour faire appliquer la sentence que le précédent tribunal avait adoptée. Donc, deuxième image, c'est stick, donc c'est plus tellement une matraque, c'est un bâton, d'accord, donc qui est moins efficace. Et puis même splinter, donc une écharde, simplement une petite écharde pour les employeurs, puisque ce qui montre, c'est que une partie de ce combat va être perdue lors de la mise en œuvre. Ils ont des décisions judiciaires favorables dans les années 70, mais lorsqu'on regarde les écarts de salaire entre hommes et femmes, ils restent importants, ils se sont pas beaucoup réduits. Même s'il y a eu des décisions judiciaires favorables, la mise en œuvre très souvent pêche. Hein, et donc c'est là où moi ça m'intéresse beaucoup comme sociologue et pas comme juriste. C'est pas uniquement de commenter les décisions des juges, mais c'est de regarder est-ce que ça change vraiment les situations. Et donc quand on regarde le résultat en termes d'égalité salariale, McCann il dit que c'est une demi-victoire quand même. Dans beaucoup de cas, c'est pas des victoires nettes. Par contre, il insiste beaucoup sur une autre fonction de ce recours à la justice, c'est ce qu'il appelle un catalyseur hein, pour l'expansion des consciences du droit. Donc c'est l'idée que, en fait, passer par le tribunal, ça a permis à ces activistes de cadrer comme des droits, comme des injustices en termes de droits, cette question de l'inégalité entre hommes et femmes. Et du coup, cadrer en termes de droits, ça a produit de la solidarité entre les femmes et entre les entreprises, des différentes entreprises entre les femmes, ça nourrit en fait la lutte collective, y compris qui a pu passer par des grèves ou des manifestations qui, finalement, McCann dit, sont peut-être plus efficaces que le recours judiciaire, parce que le recours judiciaire, c'est long, on ne gagne pas toujours, même quand on gagne, ce n'est pas forcément mis en place, alors que l'action directe, comme la grève ou la demonstration, enfin la manifestation, ça crée des rapports de force qui peuvent permettre plus rapidement, peut-être, ou directement, d'obtenir gain de cause qu'une bonne décision judiciaire qui a lieu 2 ou 3 ans après. Mais malgré ça, ce qu'il dit, c'est que cadrer le combat comme un combat en termes de droit, qu'on va revendiquer devant un tribunal, ça a eu des effets très forts dans le rapport au droit, dans l'expérience de cette injustice de l'égalité, de l'inégalité salariale chez les femmes. Et du coup, il y a une espèce de ce qu'il appelle des radiating effects, hein, donc c'est des effets en radiation, c'est des effets souterrains mais qui diffusent dans la manière dont les gens se rapportent à ce problème-là, et le cadrer en termes de droit, ce que permet le recours à la justice, est finalement très puissant pour nourrir d'autres luttes et peut-être d'autres formes de lutte que le recours au droit. Et donc il a finalement une conclusion qui n'est pas si négative dans la manière dont les décisions judiciaires ont pu changer vraiment les choses ou pas. Hein, puisque, voilà, ça, alors il discute aussi beaucoup avec un autre ouvrage à l'époque qui s'appelle The Hall of Hope et qui voilà, travaille sur les grandes décisions de la Cour suprême, sur la déségrégation, sur le droit à l'avortement, etc. Et pareil, cet auteur, hein, qui est un sociologue du droit aussi, ce qu'il montre, c'est qu'il y a eu des super décisions comme ça. Hein. Sauf que quand on regarde concrètement comment on fait pour avorter aux États-Unis ou les questions de discrimination raciale dans le domaine de l'école, hein, pour Brown versus Education, la première grande décision à l'époque, bah, le sociologue, ce qu'il montre, c'est quand même que les choses n'ont pas radicalement changé. Quoi, hein. C'est-à-dire que l'avortement, c'est toujours compliqué. Il y a plein d'États dans lesquels il n'y a tout simplement pas de moyens de le faire. Même si le droit existe, c'est un droit très formel. Hein. C'est donc une critique encore marxiste un peu, dans le sens où c'est un droit qui d'abord est un droit formel, mais qui ne change pas forcément beaucoup les choses. Donc McCann, dans ce débat, il dit bah, en fait, si, ça change quand même les choses dans la manière dont les gens se rapportent au droit, et ça crée des formes de solidarité, ça cadre les problèmes comme des problèmes d'injustice de droit. On bafoue mes droits. Et du coup, ça nourrit les luttes. Et donc, il incite beaucoup sur ça. Donc, en France, si on regarde ça, si on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, je reviens un peu sur cette question des prud'hommes, parce que des travaux d'historiens récents, d'Alain Cottereau, par exemple, mais de Philippe Couton aussi, ont bien montré comment les prud'hommes ont vraiment accompagné la naissance du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Hein. Je vous rappelle que les prud'hommes, c'est 1806. Donc, c'est vraiment une institution très, très ancienne, en fait, hein, qui naît... avant les syndicats. Les syndicats en France, c'est 1884. Donc 80 ans avant, on crée les prud'hommes, qui sont un tribunal très spécial, puisque c'est un tribunal dans lequel on n'aurait qu'un type de litige, c'est les litiges du travail. Et notamment les litiges les contrats, liés au contrat de travail, liés aux relations individuelles entre un employeur et un salarié. Et c'est un tribunal qui n'est pas peuplé de juges professionnels, mais qui est peuplé de représentants du monde du travail. Hein, donc en 1848... on institue l'idée qu'il y a deux employeurs et deux salariés qui constituent un bureau de jugement devant lequel on va se porter sa plainte et qui juge pour dire bah oui, c'est plutôt le salarié, plutôt l'employeur qui a raison, ou on partage en deux, etc. Et donc c'est une institution très ancienne, très spécifique, très particulière. C'est un tribunal très... très... Et ce que montre très bien notamment Philippe Couton, c'est comment ce tribunal a vraiment accompagné beaucoup le mouvement ouvrier. C'est-à-dire que il a contribué à faire exister l'idée qu'il y avait des salariés et des employeurs. Puisqu'il a fallu élire des représentants des patrons et des représentants des salariés. Au XIXe siècle, ce n'est pas très clair hein, qui est un employé, qui est un salarié, qui est un employeur. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu les deux. Et aujourd'hui, se rejouent des choses autour des auto-entrepreneurs, autour de tout ce travail indépendant, ce qu'on appelle le halo du travail salarié aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, le mouvement qui se passe, c'est quoi? C'est une conscientisation progressive d'une distinction vraiment entre des salariés et des employeurs. Et les prud'hommes sont une institution qui va beaucoup aider à cette distinction fondamentale qui va permettre ensuite d'imaginer ce droit du travail, qui est un droit très spécifique, puisqu'il... Il vise d'abord à protéger le salarié. Une question ?
La loi sur les syndicats date de 1884.
Oui.
La loi sur les associations date de 1901. Et 1905, ce que l'on connaît. La loi Le Chapelier interdisait les associations depuis la Révolution française.
Oui, alors il y a 1864, il y a une loi déjà qui autorise les coalitions.
Oui.
Pas les syndicats, mais voilà. Mais oui, alors, du coup, sur les prud'hommes, moi, j'ai un peu travaillé sur les prud'hommes aussi.
Antérieur à la Révolution.
Donc, 1806, les prud'hommes. Hein, 1806.
Il y avait des prud'hommes avant la Révolution.
Non, c'était les tribunaux du travail dans le contexte des corporations. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est très différent. Ça, c'est un tribunal patronal, souvent.
Alors, juste sur les prud'hommes, ce qui est intéressant pour vous parler un petit peu de...
Le maître artisan, il possédait son métier au même titre que ses meilleurs ouvriers. Bon, donc, c'était... Il faut faire très attention, effectivement, du contexte très distinct.
Donc, pour dire en deux mots un peu ce qui se passe autour des prud'hommes, en fait, donc c'est une institution aussi devant laquelle on va très souvent au XIXe siècle. Enfin, les archives montrent que c'est assez fréquent, en fait.
Lyon-Camp le montre très bien, c'est Girard. Hein.
Voilà, oui, oui. Alors, voilà. Puis il y a aussi Alain Cottereau, qui est un historien, qui a aussi beaucoup montré ça. Ce qui se passe progressivement dans l'histoire des prud'hommes, c'est jusqu'aux années 50. D'abord, c'est une institution dans laquelle on va assez souvent, lorsqu'on a un problème dans le cadre du travail, dans laquelle on concilie avant même de juger. Hein, puisque au prud'homme, vous avez deux phases. La première phase, c'est qu'on doit tenter une conciliation. Les juges du tribunal, les quatre juges que j'ai évoqués, hein, deux de chaque... Ils doivent d'abord proposer aux personnes en conflit une conciliation. Voilà, on va essayer de dire, est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord quand même ? Et de fait, jusqu'aux années 50, c'est assez fréquent qu'on concilie. Depuis les années 50-60, le nombre de conciliations, le taux de conciliation a énormément baissé. Aujourd'hui, c'est moins de 10% des affaires qui sont conciliées et 90% qui donnent lieu à jugement. D'accord ? Donc, premier changement important. Deuxième changement important, le recours au prud'homme devient progressivement uniquement dans les cas où on se fait licencier et où on va contester les motifs du licenciement. Encore une fois, au XIXe siècle, c'est très fréquent d'aller au prud'homme pour se plaindre de son patron, mais sans forcément que le patron vous ait licencié. C'est-à-dire que la relation de travail continue après. Alors qu'aujourd'hui, dans 95% des cas, les prud'hommes, c'est une fois qu'il y a eu le licenciement, donc rupture du contrat de travail, et après on conteste le licenciement. Tu voulais intervenir ?
Oui, non, simplement, depuis une dizaine d'années aussi, il y a les ruptures conventionnelles.
Alors voilà.
700 000 dossiers par an, c'est énorme. Hein,
donc,
qui effectivement, parasite.
Oui, oui.
Énormément.
Alors, c'était ce que, voilà. Alors, encore deux points dans l'évolution, parce que j'allais y venir, mais deux points dans l'évolution, c'est que, pareil, jusqu'aux années 50-60, il y a très peu d'avocats, puisque c'est les parties qui viennent devant le tribunal et qui expriment leur grief, et puis le tribunal qui soit concilie, soit juge. Mais il y a très peu d'avocats, et du coup, c'est pas tellement en droit qu'on juge, c'est surtout en équité. Hein, c'est en partant des règles du métier, qui fait que dans le bâtiment, lorsqu'on injurie son chef, de nom d'oiseau, c'est pas un motif de licenciement. C'est-à-dire que si le chef vous licencie et qu'après vous allez devant le tribunal, vous êtes jugé par des gens qui sont du cru, qui sont du bâtiment, ils vont dire au chef, là, vous abusez, quoi, parce que c'est, dans le bâtiment, on se traite de nom d'oiseau, ça fait partie d'eux. Alors évidemment, dans la haute couture, c'est différent, hein, on ne traite pas, voilà. Donc vous voyez, on ne juge pas en droit, on juge en équité en fonction des usages qui sont courants dans le secteur. Et progressivement, à partir des années 60-70, les avocats vont devenir de plus en plus importants et le jugement va être de plus en plus rendu en droit. On va juridiciser les prud'hommes.
Les États-Unis.
D'accord ? Non, je parle en France, là.
D'accord.
Je parle en France, vraiment.
Excuse-moi.
Et du coup, depuis les années 70-80, c'est beaucoup plus systématique qu'il y a des avocats et qu'on juge en droit. Et puis, dernière évolution importante, c'est que le nombre de prud'hommes va chuter de manière importante depuis les années 90. Hein, entre 1993 et 2007, on a 25% de prud'hommes en moins. Donc on passe de 250 000 à... Aujourd'hui, on est à 150 000 prud'hommes, même plus. Et en particulier, c'est lié à notamment la rupture conventionnelle qui est inventée il y a 10 ans, en 2008. On invente la rupture conventionnelle explicitement pour faire que les gens n'aillent plus aux prud'hommes. Hein, donc il y a vraiment une...
Florence Parisot, quand elle dirigeait le MEDEF à l'époque, elle avait dit... Il faut apprendre à divorcer à l'amiable, comme dans un couple, on divorce à l'amiable. Le divorce, c'est un conflit. Et la rupture conventionnelle, c'était ça, l'état.
Voilà, l'idée, c'est qu'on se met d'accord de part et d'autre hein, pour arrêter le contrat de travail, en garantissant que l'un des deux ne va pas aller ensuite au prud'homme.
Normalement, c'est un engagement.
C'est un engagement qu'on prend quand on signe une rupture conventionnelle. Hein, parce que c'était sécuriser les relations d'entreprise. Donc moi, j'ai un peu travaillé sur quelles étaient les conditions un peu sociales de recours au prud'homme. Dans quelles entreprises on recourait beaucoup au prud'homme ou pas. Et donc deux résultats ici, simplement pour dire que, en fait, c'est surtout dans les petites boîtes qu'on recourt au prud'homme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit du travail dans une petite boîte, très souvent, ça se traduit sur la question de la confiance. L'employeur a plus confiance dans son salarié, etc. Enfin, et du coup, on va le licencier. Contestation. parce que la relation de proximité très forte qui existe dans une petite entreprise, elle est rompue. Et du coup, après, on n'a plus rien à perdre, donc on va au prud'homme. Alors que dans les grandes entreprises, il y a beaucoup plus souvent des syndicalistes, il y a beaucoup plus des collectifs de travail qui prennent en charge les conflits. Et le conflit, très souvent, ça peut être un conflit de personnes, mais il va se transformer en un conflit d'un collectif ou entre des fonctions et pas uniquement des personnes, parce que c'est des grandes entreprises. Et du coup, lorsqu'on est licencié dans une grande entreprise, on va moins souvent au prud'homme derrière. D'accord ? Donc, le prud'homme, c'est plutôt le monde des petites entreprises. Même si, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais pour aller au prud'homme, il faut aussi avoir des soutiens. Il faut aussi avoir été dans des formes de collectifs quand même, qui précédaient. Ça peut être dans des petites entreprises, hein, c'est pas parce qu'on n'est que 10 qu'il n'y a pas un collectif de travail soudé. Mais si jamais on est très très individualisé dans sa relation à l'employeur, on a plus de mal à aller au prud'homme derrière. Alors, pour revenir aux États-Unis, il y a la thèse un peu d'une judiciarisation qui viendrait des États-Unis. Il y a l'idée qu'aux États-Unis, on recourrait au droit pour un rien. Et je vous ai dit, il y a cette thèse de l'adversarial légalisé, etc. Ouais, il me reste combien de temps ? Il me reste. Alors, je vais aller très vite. Mais juste pour vous dire que cette question de la judiciarisation, elle est totalement fausse en France. Il y a une baisse du recours au prud'homme très importante. Et ce qui est assez étonnant, c'est d'avoir vu comment on a pu manipuler les chiffres dans les années 2000. On a dit qu'il y a une explosion du contentieux prud'homal, donc il faut faire la rupture conventionnelle. Donc on va complexifier l'accès à la justice, alors qu'il y a vraiment donc l'idée qu'il y aurait une judiciarisation des relations de travail, hein, de plus en plus de recours à la justice pour régler les conflits du travail, c'est faux. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe en France. On recourt de moins en moins à la justice en France et aussi aux États-Unis. Et ça, c'est un point commun aussi important. Il y a une étude qui est sortie aussi il y a 3 ans sur notamment tous ces procès pour discrimination que j'évoquais tout à l'heure, qui montrent que l'attrition entre le nombre de gens qui lancent une action et que ça aille au bout, c'est 1% des procédures lancées initialement qui vont au tribunal, qui sont jugées. Alors aux États-Unis, c'est surtout parce que ça passe par le settlement, par des transactions en fait. En fait, aux États-Unis, on se saisit souvent du tribunal, mais on va rarement au bout, et de moins en moins même au bout. Et ça pose des problèmes aux juristes américains. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils n'ont plus assez de décisions à commenter. Parce que dès qu'on lance une procédure au tribunal, derrière, les avocats, ils transigent. Et ils se mettent d'accord, et il n'y a plus de décision du juge. Et donc, on ne sait pas ce que le juge aurait décidé. Et c'est un gros problème dans un pays de common law en particulier, pour lequel le droit repose sur la décision du juge. Et donc aujourd'hui, ils commencent sérieusement à se poser des questions, les juristes américains, sur ce point-là.